Poésie sur parole. André Velter.
À l'occasion d'une semaine de programme consacrée à la Russie, une émission autour de deux grandes figures, Vysotsky et Pouchkine. Pouchkine, dont Eugène Onéguin vient d'être traduit par André Markovitch dans une version versifiée et rimée, et Vysotsky, que Marina Vladi évoque avec Jean-Baptiste Parra.
У меня гитара есть, раступите стены, бег свободы не видать, и со злой фортуны. Перережьте горло мне, перережьте вены, только не порвите серебряные струны. Перережьте горло мне, перережьте вены, только не порвите серебряные струны. Я зароюсь в землю, скину в одночасье, кто бы заступился за мой возраст юный. Влезли ко мне в душу, рвут ее на части, только
les cordes d'argent. Je serre ma guitare contre moi. Les murs, écartez-vous. La fortune me fut contraire. Je n'aurai pas de liberté ma vie durant. Tranchez-moi donc les veines. Tranchez-moi donc le cou. Seulement, ne coupez pas mes cordes d'argent. Je m'enfouis dans la terre. Je pourris solitaire. Qui de ma jeunesse se montrera compatissant? On rampe dans mon âme, on la coupe en lanière, pourvu qu'on ne coupe pas mes cordes d'argent. Emportant ma guitare, ils m'ont pris la liberté. Je me suis effondré, je criais, bande de salauds, de truands, noyez-moi, écrasez-moi dans la boue à coups de pied, seulement ne coupez pas mes cordes d'argent. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Je ne verrai plus jamais ni les nuits sans lune, ni les petits matins blancs. Ils ont gâché mon âme, ma vie, m'ont privé de liberté. Maintenant, ils ont brisé mes cordes d'argent.
Vladimir Vysotsky est à la fois poète, chanteur et acteur de premier plan au théâtre de la Taganka à Moscou. Marina Vladi, je crois que c'est justement à la Taganka que vous l'avez rencontré pour la première fois en 1967. Il avait alors 29 ans. Quel souvenir gardez-vous de cette première rencontre ?
Eh bien, en plus, c'était un texte de Essénine, donc c'était un texte poétique, justement, qu'il donnait. Une pièce écrite par Essénine, Sergueï Essénine. Mais je l'ai rencontré et j'ai été éblouie sur scène, parce que c'était un acteur prodigieux, c'était un tragédien prodigieux, avec une voix exceptionnelle. Sa voix chantée ne ressemblait pas du tout à sa voix parlée. Il avait une très belle voix de baryton sur scène, et j'ai été éblouie. Et quand je l'ai vu après le spectacle, parce qu'évidemment, tout le monde a voulu qu'on se rencontre, parce que c'était le grand acteur en vogue au théâtre, hein, à l'époque, uniquement pratiquement au théâtre, j'ai vu rentrer un petit bonhomme, tout à fait simple et gentil, un peu quelconque même, je dirais, dans la vie, comme ça. Alors que sur scène, c'était vraiment un géant. Donc j'ai été tout à fait conquise en tant que spectatrice, en tant qu'actrice aussi, parce que il avait une extraordinaire expérience théâtrale. Oui, c'était l'acteur principal de la Taganka, qui était le seul théâtre vraiment passionnant de Moscou à l'époque.
Il a pris sa guitare au cours de cette réunion après le spectacle.
La soirée s'est terminée fort tard, comme toujours à Moscou. On reste très longtemps à bavarder, à boire, à chanter. Et effectivement, il a chanté et j'ai découvert ses textes que je connaissais pas du tout, naturellement, parce qu'en France, personne ne connaissait Vysotsky. On m'en avait parlé beaucoup à Moscou, parce que j'avais déjà été plusieurs fois à Moscou, mais enfin, c'était la première rencontre a été fulgurante, comme ça.
Alors justement, une rencontre fulgurante, et puis vous avez très vite uni votre vie à celle de Vladimir Vysotsky. vous êtes mariée, et au lendemain de ce mariage, vous êtes partie en Géorgie. Alors, je pense qu'il y a pas mal de souvenirs autour de ce périple.
Non, d'abord, il faut dire que dès la première rencontre, il m'a dit que je serais sa femme, ce qui m'a beaucoup fait rire, parce que j'étais, moi, tout à fait très loin de cette idée, enfin. Il a mis quand même presque un an et demi à me conquérir, disons, en tant que femme, en tant qu'amoureuse. J'étais amoureuse de son art, mais je suis tombée amoureuse de lui petit à petit, en l'entendant, en l'écoutant, en le regardant, bien sûr. Oui, le voyage en Géorgie, c'était un voyage de noces. C'était notre voyage de noces et on a eu droit à un banquet géorgien avec des chants que maintenant tout le monde connaît parce que on écoute et ils viennent même en tournée beaucoup chanter, mais ils chantent à 18 voix, c'est absolument incroyable. Et on a été reçus comme des princes parce que ils ont le goût justement de cette espèce de représentation où on vous sert des cornes avec du vin dedans. Et alors, comme on peut pas boire un litre de vin d'un seul coup, enfin moi en tout cas à l'époque, surtout, je buvais pas du tout. Donc j'avais un monsieur derrière qui buvait à ma place et qui restait debout sans bouger pendant tout le banquet.
C'était un préposé qui était là pour boire à votre place.
Exactement. Et comme Vladimir à l'époque ne buvait pas non plus, en fait on était tous les deux avec un monsieur derrière qui a bu je sais pas combien de litres de vin. Parce que chaque toast, il vous serve dans une corne de vachette, et c'est quelquefois un litre de vin. Voilà, donc c'était assez rigolo, quoi.
Marina Vladi, vous nous disiez tout à l'heure que le jour où vous avez rencontré Vysotsky pour la première fois, donc il jouait dans une pièce d'Essénine.
Oui, c'est Pougatchev.
Voilà, le Pougatchev, oui. Justement. Et à propos de Pougatchev, je dirais que Vysotsky avait à l'évidence de la sympathie pour des rebelles du genre de Pougatchev ou de Stenka Radzine. Et ce qui nous frappe, de manière plus générale, dans ses chansons, dans ses poèmes, c'est qu'il évoque la plupart du temps des hommes, des femmes soumis à des conditions difficiles, à des conditions extrêmes, par exemple à l'épreuve de la guerre, puisqu'il y a tout un cycle de chansons magnifiques sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc ces hommes et ces femmes, mais qui affirment envers et contre tout une formidable énergie vitale et puis une soif immense de liberté.
Oui, je crois que c'est son thème principal, c'est le goût de la liberté, parce qu'il n'était pas libre justement et qu'il a vécu toute sa vie sous la pression et l'humiliation des fameux visas qu'il ne recevait pas ou des demandes de concerts qu'on lui refusait au dernier moment ou des musiques de films qu'on coupait au dernier moment pour ne pas citer son nom tout simplement. Il était ce qu'on appelait une personnalité odieuse pour ce régime. Bon, il était très patriote, hein, il était pro-révolution et il était pas pour le système tel qu'il était, mais pour l'idéal, disons. Il était quand même très proche de l'idéal communiste. Mais naturellement, c'était pas un dissident non plus. Un dissident au sens où il n'a pas été en prison, alors que tout le monde dit qu'il a fait de la tôle parce qu'il a écrit des choses sur la tôle extraordinaires, mais il a jamais fait de tôle, il a jamais été pilote, il a jamais fait la guerre. Enfin, c'était quelqu'un qui imaginait complètement ses personnages et qui vivait leur épopée, si vous voulez, à travers sa poésie. Mais en tant qu'acteur, il a eu beaucoup de mal aussi.
Par la force des choses, vous étiez à la fois unis à Vladimir Vysotsky et souvent séparés de lui. Mais dans quelles circonstances alors a-t-il obtenu son premier visa et quelle était sa réaction lorsqu'il a passé pour la première fois la frontière? Ça me rappelle d'ailleurs un épisode de la vie de Pushkin qu'il aimait beaucoup puisque Pushkin a rêvé toute sa vie.
Il n'est jamais sorti. Pushkin n'est jamais sorti. Il n'a pas eu la possibilité comme Vladimir Vysotsky de finalement au bout de 6 ans. Parce que ça a duré 6 ans. J'ai été pendant 6 ans voir tous les gens, passer des heures avec les ambassadeurs, avec les gens de l'OVIR, c'est-à-dire cette fameuse organisation qui donne les visas ou qui ne les donne pas, d'ailleurs. Jusqu'au jour où on nous a fait savoir, et ça c'était le paradoxe, c'est que même le KGB aidait Vysotsky, parce qu'il a eu des tas d'histoires où il a été sauvé par des gens du KGB, qui l'ont prévenu à temps de ne pas aller à un endroit, par exemple, parce qu'il y aurait un procès contre lui pour viol d'enfant. Et que là, il était foutu, évidemment, parce que les enfants l'auraient reconnu fatalement. On les avait travaillés, comme on dit. Et il n'a pas été à cette convocation, mais parce que c'est un homme du KGB qui l'a prévenu. Donc il y avait tout le temps ce jeu. Il l'adorait, et en même temps, il était bien obligé de le martyriser d'une certaine façon. Donc, on nous a prévenu que le visa était refusé. Et vous savez qu'un refus, c'est définitif. À l'époque, c'était définitif. C'est-à-dire qu'il n'aurait plus jamais pu redemander un visa de sortie pour l'étranger. Et là, j'ai vraiment essayé toutes mes cartes, si vous voulez. J'ai téléphoné à Marchais, que je connaissais parce que c'était le Parti communiste et que, effectivement, on avait eu des relations pendant une période, à l'époque où on tournait Le Temps de Vivre, dans les années 68, d'ailleurs. Et je lui ai expliqué la situation. Et il a agi, il a téléphoné. Et c'est quand même, c'est directement Brejnev qui lui a donné ce visa de sortie. Et alors après, c'était très marrant parce que il avait un visa de sortie pour venir chez sa femme en France et il a fait le tour du monde avec moi. On a été jusqu'à Tahiti, on a été en Amérique, il a chanté partout, il a fait des disques. Et chaque fois qu'il rentrait, les types voulaient le punir en quelque sorte. Mais il ne pouvait plus parce qu'il avait été protégé par les plus hautes instances. Vous savez, c'était un système où les gens avaient peur.
Ça ressemble énormément au système tsariste, finalement.
Mais complètement, d'ailleurs. C'est un pays, ça continue. Hein,
lorsque Pouchkine s'est plaint au tsar qu'il subissait la censure de l'église, la censure de la police politique, etc. Et où le tsar lui a dit, mais à partir de ce jour,
c'est
je serai votre
censeur
personnel.
Exactement.
Et on a l'impression que l'histoire se répète.
Oui, mais c'est un peu ça, parce qu'il était adoré par Brejnev, puisqu'on sait par sa fille que Brejnev écoutait les chansons. Enfin, vous savez, s'il n'y avait pas eu de magnétophone, Vysotsky n'aurait pas existé jusqu'à peut-être maintenant. On aurait retrouvé ses papiers maintenant. Mais il a été connu dès les premières chansons et tout le monde écoutait ses chansons. On marchait dans la rue en été, on entendait de toutes les fenêtres la voix de Vysotsky. C'est-à-dire, c'était vraiment une star comme sont les stars de rock. Mais même plus. Si vous voulez, c'est un mélange de Dylan, de Brel, et d'acteurs de cinéma aussi, parce qu'il était très aimé en tant qu'acteur de théâtre, plutôt. Donc il était en même temps protégé, et en même temps totalement écrabouillé, humilié tout le temps. Enfin, il devenait fou, quoi. Il est devenu fou, en quelque sorte.
Чтоб не было следов, повсюду подмели, ругайте же меня. Позорьте и трезвоньте мой финиш, горизонт, а лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб ехать по шоссе, и только по шоссе бесповоротно. Наматываю мили на кардан и еду параллельно проводам. Но то и дело день перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном.
Pour effacer mes traces, partout ils ont balayé, injurié, diffamé, sonné les carillons. Mon but, c'est l'horizon. Le bout du monde, c'est l'arrivée. Je dois être le premier à l'horizon. Paris, on a topé, tant pis, bon gré, mal gré, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec le règlement. La seule règle est celle-ci. Rouler, 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 rouler sur le bitume sans en tournant. J'enroule les kilomètres au cardan, parallèle à ces poteaux défilant. De temps en temps, devant moi, passe une ombre, un chat noir ou quelqu'un, ombre sombre. J'ai l'habitude qu'on me mette des bâtons dans les roues. Je sais où et comment ils me tromperont sans doute, où ils couperont ma course, ricanant par-dessous, où ils tendront un fil, barrant ma route. À cette vitesse folle, le moteur est brûlant, et la moindre poussière a la force des balles. Épuisé, j'ai des crampes, je serre le volant. Ah, réussir avant l'instant fatal. J'enroule les kilomètres au cardan, verticalement au poteau défilant. Plus vite se desserrent les écrous, ils vont lever le fil à la hauteur de mon cou. Les pare-chocs sont en feu, le bitume a fondu, j'ai le ventre serré au bord du dénouement. Je brise le filin de ma poitrine nue. Enlevez vos brassards noirs, je suis vivant. Qui donc m'a obligé à ce pari horrible? Imbécile dans son but et son déroulement. Le danger m'a saoulé d'une façon terrible. Je freine à fond dans les tournants. J'enroule les kilomètres au cardan, en dépit des filins et des câbles. Pourtant, les perdants devront se faire une raison lorsque j'apparaîtrai à l'horizon. L'horizon est toujours éloigné comme avant. Ma vertèbre cervicale n'a pas cassé le filin. Je n'ai pas rompu le fil. Je n'ai pas coupé le ruban. On me tire dessus près du ravin. Personne n'a parié un rouble que j'irai vite. On m'a demandé, ne perds pas de temps sans raison. Essaye de savoir si la Terre a une limite, si on peut repousser les horizons. J'enroule les kilomètres au cardan. Je ne me laisserai pas tirer dessus à mon temps. Mais les commandes refusent. Les freins ont lâché. Et l'horizon, en route, je l'ai raté.
Меня ведь не рубли, на конкурс завели, меня просили, миг не провороньте. Узнай, а есть предел там на краю земли, и можно ли раздвинуть горизонты? Наматываю мили на кардан, и пулю в скат влепить себе не дам. Но тормоза отказывают хода, я в горизонт.
Comment est-ce qu'il écrivait? Comment est-ce qu'il composait ses chansons? Est-ce que les paroles et musique naissaient ensemble ou pas obligatoirement?
Non, pas obligatoirement. C'était très différent. Que certaines chansons ont été écrites devant moi, mais au fil de la plume, vraiment, pratiquement sans correction. D'autres, il a mis des semaines à les écrire, à les reprendre, à les retravailler, à faire des changements de lignes, de textes, de mots, enfin bon. D'ailleurs, on le voit sur ces manuscrits, il y a des manuscrits qui sont absolument comme Mozart écrivait la musique, c'est-à-dire sans une faute, sans une rature. D'autres sont totalement griffés avec une rage parce que ça marchait pas, quoi. Mais généralement, il faisait la musique presque simultanément parce qu'il travaillait la nuit, en plus de son travail de comédien et de théâtre, parce que il répétait dans la journée, il jouait le soir, presque tous les soirs. Il écrivait la nuit, donc c'était une espèce de... Oui, il était exacerbé, comme ça. Il dormait 3-4 heures par nuit, et il s'est aussi beaucoup usé avec ce mode de vie. Mais il écrivait la nuit, et quelquefois, je voyais sortir, parce que c'est des énormes textes, il y en a qui sont gigantesques, enfin, certaines des ballades sont gigantesques. Et quand je lui posais la question d'où ça vient, comment tu fais, quoi? C'est quand même extraordinaire. Il haussait les épaules, il faisait, j'en sais rien. Mais c'était un petit peu de la coquetterie, parce qu'en réalité, il travaillait beaucoup quand même.
Alors à propos de Pushkin, quand on lit les traductions françaises de ses ballades aux éditions de Janus, on se dit qu'il a quelque chose en commun avec Pushkin.
La langue.
Alors la langue, bien sûr. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Pushkin a vraiment su parler, mettre en scène, faire vivre toutes les couches de la société russe de son temps, et même de celles qui avaient existé dans les siècles antérieurs. Hein. Oui. Et on a l'impression qu'il est aussi à l'aise et avec la même vivacité pour faire vivre un aristocrate ou une nounou ou un paysan. Eh bien, il y a quelque chose de semblable chez Vysotsky, à tel point que lorsqu'il écrit des chansons sur les bagnards sont persuadés qu'il l'a été. Quand il écrit une chanson sur un aviateur, sur les aviateurs, là aussi la même chose, sur les alpinistes la même chose, on a l'impression qu'il était en osmose profonde avec toute la réalité et la diversité de son peuple.
Je crois qu'il aurait été très touché de ce compliment, parce que pour lui, Pushkin était quand même le dieu vivant en littérature, en poésie. Oui, c'est vrai qu'il a écrit des choses qui sont très troublantes. Moi, maintenant je les connais toutes, évidemment, et au départ, je ne connaissais que quelques chansons, et déjà j'étais très troublée par la diversité et la véracité de ce qu'il écrivait. C'est très difficile de traduire la recherche et la diversité des mots employés par Pushkin. Évidemment, je crois que c'est un des plus grands, le nombre de mots de Pushkin sont parmi les plus riches, enfin, du vocabulaire russe. Je pense que pour Vysotsky, c'est pareil, il y a des mots qu'il a même inventés et qui sont passés maintenant dans le quotidien. Il a aussi beaucoup utilisé les jargons, parce qu'il y a beaucoup de jargons de bagnards, justement, des jargons de voleurs, des jargons d'alpinistes, enfin. C'est peut-être aussi ça qui fait que les gens ont l'impression qu'il a vécu 25 vies. Parce que, ce qui d'ailleurs est vrai d'une certaine façon, comme nous, les acteurs, on vit chaque personnage, on le vit réellement tout de même, même si on fait semblant. Et lui, pareil, il rentrait dans la peau des personnages, dans la peau de l'avion qui tombe, dans la peau terrible, cette évocation du sous-marin qui coule et sauver nos âmes et puis on nous entend plus, notre SOS devient de plus en plus faible et on pense à ce terrible au Kursk. C'est exactement ce qu'il a écrit, enfin. C'est là où il y a quelque chose de, d'un devin un petit peu chez les poètes.
À sa mort, en juillet 80, je crois que plus d'un million de personnes ont suivi le cortège funéraire. Et puis son ami, le poète et chanteur Bulat Okudjava, a écrit une chanson, un poème. J'en citerai simplement quatre vers. La séparation ne sera pas longue, un court instant. Ensuite, nous irons nous aussi sur ces traces brûlantes que plane sur Moscou sa voix de baryton enrouée. Avec lui, tous ensemble, nous rirons et ensemble, nous pleurerons.
C'est un très beau texte.
Et il reste très très présent aujourd'hui dans la mémoire des Russes.
Oui, oui, oui. J'en rencontre énormément, puisque maintenant ils se baladent partout librement. Ce sont pas ceux que je préfère, d'ailleurs, ceux qui se promènent sur la Côte d'Azur, par exemple, je ne ferai pas avec eux. Mais j'ai souvent des gens qui viennent simplement me parler pendant des salons ou dans des rencontres, parce que je fais un petit peu des débats, comme ça, autour de mes livres. Et c'est vrai que c'est un personnage qui fait partie de leur vie totalement. Même ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Il a vraiment une place, énorme dans le cœur et dans le cerveau des gens. C'est-à-dire qu'il a ouvert beaucoup d'horizons à des gens qui, à l'époque, étaient très, très, infantilisés par le régime, puisqu'il n'y avait aucune information, autre que celle qu'on pouvait entendre comme ça, un petit peu par la radio, les radios interdites, etc. Mais enfin, le populo ne connaissait pratiquement rien de ce qui se passait à l'extérieur, par exemple. Et lui, il a raconté des choses qui sont assez effroyables, d'ailleurs. On l'appelait le nerf du siècle, parce qu'il a secoué les gens. Voilà. Il secouait les gens pendant les concerts pour qu'ils pensent et qu'ils ouvrent les yeux et les oreilles, quoi. C'était très intéressant. C'est quand même un grand compositeur aussi. Tout le monde oublie qu'il a écrit des mélodies magnifiques et je pense qu'on lui rendra hommage à ce sujet un jour parce que toutes ces mélodies sont très belles. Ce sont des mélodies simples, naturellement, qui sont des soutiens au texte, mais il y en a qui sont magnifiques.
Рвусь из сил, из всех сухожилий. Но сегодня, опять как вчера, обложили меня, обложили. Гонят весело на номера.
La chasse au loup. Toute force dehors, muscles, tendons, je fuis la chasse. Tout comme hier, encore aujourd'hui, je suis cerné. Il traque, il pourchasse, au numéro d'un air réjoui. Derrière les pins, les fusils tirent au but. Dans l'ombre, les chasseurs patientent. Sur la neige, les loups font la culbute, transformés alors en cibles vivantes. La louveterie se poursuit. Aux loups, on fait la chasse. La chasse aux mâles gris, aux femelles, aux petits. La meute hurle à vomir, les rabatteurs sont en place. Sang sur la neige et tache des fanions cramoisis. Les chasseurs ne jouent pas à égalité avec les loups. Leurs mains ne tremblent pas. Des drapeaux limitent notre liberté. Ils frappent, sûrs d'eux, ne se trompent pas. Le loup ne peut transgresser les traditions. Nous avons bu, aveugle louveteau, avec le lait, lorsque nous le tétions, l'interdiction de franchir les drapeaux. La louveterie se poursuit. Aux loups, on fait la chasse aux mâles gris, aux femelles, aux petits. La meute hurle à vomir, les rabatteurs sont en place, sang sur la neige et tache des fanions cramoisis. Nous sommes rapides des pattes et des mâchoires. Réponds-nous, chef de horde, réponds, dis. Aux abois, nous courons à l'abattoir. Pourquoi ne pas traverser l'interdit? Le loup ne peut pas, ne doit pas l'éviter. Et mon heure est venue, c'est ainsi. Celui à qui je suis prédestiné sourit joyeux et lève son fusil. La louveterie se poursuit. Au loup, on fait la chasse aux mâles gris, aux femelles, aux petits. La meute hurle à vomir, les rabatteurs sont en place, sang sur la neige et tache des fanions cramoisis. Hors des drapeaux, je me suis évadé. Par erreur, j'avais envie de vie. Derrière moi, j'ai entendu, soulagé, les chasseurs qui criaient, tout surpris. Toute force dehors, muscles, tendons, je fuis la chasse. Ce n'est pas comme hier. Aujourd'hui, je suis cerné. Ils traquent, ils pourchassent. Les chasseurs seront bredouilles cette fois-ci. La louveterie se poursuit. Aux loups, on fait la chasse. La chasse aux mâles gris, aux femelles, aux petits. La meute hurle à vomir. Les rabatteurs sont en place. Sang sur la neige et tache des fanions cramoisis.
Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
La figure de Pouchkine est apparue plusieurs fois au cours de l'évocation de Vysotsky. C'est en effet une présence constante dans la conscience des poètes et des artistes russes. Nabokov, qui avait accès au texte original, disait de Eugène Onegin de Pouchkine que c'était une des œuvres les plus brillantes jamais composées, un classique international aussi grand qu'Hamlet ou Moby Dick. La version française en vers rimé que vient de donner André Markovitch chez Actes Sud ne peut que confirmer un tel jugement par sa finesse, sa légèreté, sa grâce quasi alchimique.
Lettre d'Onegin à Tatiana. Je prévois tout. Que vous offense le triste aveu de mon secret. Quelle amère condescendance vos yeux hautains exprimeraient. Mon but, ce que je cherche à dire en vous ouvrant ainsi mon cœur. Chez vous, quelle raison de rire, peut-être, quel regard moqueur. Quand par hasard nous nous connûmes, pouvais-je laisser libre cours au feu couvant de votre amour? Rebelle à ma douce coutume, j'ai préféré me contenter de ma pesante liberté. Mais nous sépare un autre abîme, Lenski, pauvre victime, est mort. Ce qui inspire, qui ranime, j'avais tout rejeté dès lors. La liberté, la paix, pensais-je, ferait office de bonheur. Dieu, quelle monstrueuse erreur, comme je paie mon sacrilège. Non, vous revoir à chaque instant, vous suivre, être une ombre fidèle, guetter brûlant et palpitant votre sourire, vos prunelles, vous écouter longtemps, sentir vos perfections et, gratitude, auprès de vous pâlir, mourir, s'éteindre. Oh, vraie béatitude! Et moi, j'en suis privé. Pour vous, je traîne en vain des heures lâches. À chaque instant de ma vie se joue, et dans un pâle ennui, je gâche les jours que m'a compté le sort. Déjà qu'ils sont sans réconfort. J'en suis conscient, mes jours s'achèvent. Pour qu'un seul jour me soit donné, je dois savoir quand je me lève que je vous vois dans la journée. J'ai peur. Dans mon humble prière, vous ne lirez d'un regard dur. J'entends déjà votre colère. Que l'infamie d'un cœur impur. Si vous saviez quelle souffrance c'est d'être ainsi rongé d'amour, toujours calmer ce feu qui court, que la raison refuse et tense, rêver d'étreindre vos genoux, éclater en sanglots, répandre soupirs, aveux, reproches tendres, tout ce qui peut s'exprimer, tout, alors qu'une froideur menteuse arme les yeux et l'entretient, échanger calme, l'air de rien de loin en loin, des phrases creuses. Mais quoi, ce feu est trop soudain, je meurs, plus de pudeur qui tienne. C'est dit, mes jours vous appartiennent et je me livre à mon destin.
C'était Poésie sur parole avec Marina Vladi et Jean-Baptiste Parra pour la publication des Ballades de Vladimir Vysotsky aux éditions Janus, texte dit par Miglen Mirtchev. Et Eugène Onegin de Pouchkine, publié chez Actes Sud, poème dit par François Sienner. Poésie sur parole, Xavier Carrère, Marie-Dominique Bougaud, Pierre Caumont, Marie-Laure Ciboulet, Patrick Molinier, André Velter. Il est 18h, vous écoutez France Culture, le journal de la rédaction.
Jean-Marc Chardon pour la présentation du journal. Bonsoir, les électeurs chiliens aux urnes, ils votent pour élire leur président qui, pour la première fois, pourrait être une femme aux options politiques de gauche, Michelle Bachelet. Autre candidate en position de favorite, la finlandaise Tarja Halonen qui court sous les couleurs du Parti social-démocrate et de l'Alliance des gauches. Ariel Sharon n'est pas sorti du coma et son état demeure critique d'après ses médecins, mais on vient d'apprendre que le premier ministre israélien va subir ce soir une trachéotomie, ce qui laisse entendre des problèmes de respiration. La correspondance à Jérusalem de Daniel Tabor.
Cette nouvelle intervention est destinée à sortir Ariel Sharon de la dépendance à la machine respiratoire à laquelle il est relié depuis maintenant 2 semaines. À l'hôpital Hadassa, on souligne qu'il s'agit là d'un processus inscrit d'avance dans le traitement octroyé au Premier ministre, dont l'état est toutefois toujours qualifié de très grave, mais stable. Ariel Sharon subira d'abord un nouveau scanner, puis sera conduit au bloc opératoire pour cette trachéotomie. L'intervention consiste à pratiquer un trou dans la gorge pour y introduire une canule qui permettra à Sharon de respirer directement par la trachée et éviter que le tube le reliant au respirateur artificiel ne lui provoque des lésions. Une pratique courante pour éviter les risques d'infection que présente l'intubation, soulignent les sources médicales. L'hôpital Hadassa a annoncé qu'un nouveau communiqué sera publié lorsqu'Ariel Sharon sera reconduit après l'intervention au département de soins intensifs dans neurochirurgie. Ariel Sharon, qui a été sorti graduellement du coma artificiel dans lequel il a été plongé, est toujours inconscient, précise encore les sources hospitalières.
Et aujourd'hui, les ministres israéliens ont approuvé à l'unanimité une proposition du chef du gouvernement par intérim, Ehud Olmert, prévoyant que les élections à Jérusalem-Est se déroulent suivant des modalités nouvelles. La mort de l'émir du Koweït, Cheikh Jaber al-Sabah, le souverain avait survécu à une tentative d'assassinat dans les années 80. Il avait réussi à échapper aux troupes irakiennes lors de l'invasion du Koweït. Route dégagée pour le Clémenceau, après 3 jours de tractations avec les autorités françaises, les Égyptiens ont donné leur accord pour le passage du porte-avions dans le canal de Suez. Le Caire n'exige plus les documents qui prouvent la conformité du navire avec la convention de Bâle. Du coup, tout obstacle est maintenant levé, ce qui ne ravit pas les associations écologistes, en particulier les militants de Greenpeace, qui ont dénoncé l'envoi du bateau vers un chantier indien où il doit être démantelé. Yannick Jadot, le directeur des campagnes de Greenpeace.
Forcément, c'est une déconvenue, puisque l'idée que la France puisse ainsi passer en force en violant le droit international, qui est un droit qui est fait justement pour tempérer les pressions des pays riches sur les pays pauvres et réguler les exportations de produits toxiques, forcément c'est une déconvenue et l'idée même que le président Chirac soit intervenu dans ce dossier auprès du président Moubarak, alors qu'internationalement il prétend défendre l'environnement, forcément on a un petit peu honte pour la France. Maintenant, ça ne change pas fondamentalement le dossier, puisque le statut final du Clémenceau sera décidé par la Cour suprême indienne, et que c'est finalement la semaine prochaine que on saura si le Clémenceau sera démoli dans les chantiers d'Alang et mettra en péril la santé des ouvriers indiens, ou si finalement le Clémenceau retournera à Toulon pour se faire désamianter.
La présence de la grippe aviaire se confirme en Turquie. Un garçon de 5 ans vient d'être testé positif, portant le nombre de personnes infectées à 19. À la frontière turque, l'Iran abat des milliers de volatiles afin d'éviter une propagation du virus. Des poussières pour tenter d'éclairer l'histoire du système solaire, des poussières cosmiques. La capsule larguée par la sonde spatiale américaine Stardust a atterri ce matin dans le désert de l'Utah avec à son bord les premières poussières de comètes jamais recueillies. Elles pourraient aider à mieux comprendre l'origine du monde et de la vie. Précieuses poussières donc. Écoutez Francis Rocard, astrophysicien au CNRS.
Ce sont des poussières d'origine cométaire. Ce sont des objets qui se sont formés loin du Soleil, qui sont restés très très froids pendant toute la durée depuis la formation du système solaire.